Psaume 2, je lis donc dès le verset 1. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Souvent, l'histoire humaine réserve des surprises, très souvent en fait. Des choses qui semblent évidentes et permanentes peuvent s'effondrer brusquement. Alors, je prends un exemple, je pourrais en prendre plein d'autres. L'Allemagne de l'Est, un an avant la chute du mur, je sais que ça remonte un peu, c'est l'histoire justement. Qui aurait cru un instant en cet événement ? La République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est, était tenue, occupée depuis des décennies par une superpuissance, l'URSS. Le rideau de fer semblait d'une solidité à toute épreuve. Qui aurait pu croire, à l'automne 88, un an avant les événements, qu'un an plus tard, le mur chuterait, l'Allemagne serait réunifiée, et que non seulement le mur, mais en gros tout le bloc soviétique chuterait, que la carte du monde serait complètement redessinée? Qui aurait pu le croire? C'est un exemple parmi tant d'autres qui nous rappelle que les colosses, les géants de notre monde ont parfois des pieds d'argile. Et c'est entre autres choses le message qui est communiqué dans ce psaume 2. Nous poursuivons donc cette série sur les psaumes. Alors on ne va pas faire les 150 psaumes, je vous rassure, il nous faudrait plus de 3 ans si on faisait ça. On va aller normalement jusqu'au psaume 11 pour cette série. Mais donc après le psaume 1 que nous avons vu avec Paul la semaine dernière, eh bien logiquement nous arrivons au psaume 2. À première vue, ces deux textes, psaume 1 et psaume 2, sont très différents. Le ton est différent, le premier psaume est plus intimiste, celui-ci nous parle à l'échelle plus mondiale, mais en réalité, ils convergent à plusieurs égards. Et ce n'est pas pour rien qu'ensemble, ils forment en quelque sorte la porte d'entrée de tout le recueil des psaumes. Parce que le psaume 2, comme le psaume 1, pose un peu la même question, en creux, en filigrane. Serez-vous du bon côté ? Serons-nous du bon côté ? Du bon côté de la vie, du bon côté de l'histoire. Serons-nous du bon côté ? Ce sera un peu notre question clé ce soir. Et je vous propose d'examiner la réponse, enfin le message de ce psaume, en retenant 3 mots-clés. Alors pour nous aider un peu, c'est 3 mots-clés qui commencent chacun avec un R. Une révolte, un rire, un roi. On va commencer donc d'abord par une révolte. Le psaume commence avec cette question. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une phrase qu'on peut difficilement trouver plus actuelle comme phrase que celle-là. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Vous regardez les mêmes infos que moi, vous les lisez. Crise nucléaire en Corée, massacre en Birmanie, racisme, terrorisme, guerre. Alors là, je ne parle même pas des phénomènes naturels par ailleurs en ce moment. De grands dirigeants internationaux qui bombent le torse pour montrer que c'est eux les plus forts. Beaucoup de choses ont changé, c'est vrai, depuis l'époque où ce psaume a été écrit, entre 2500 et il y a 2500 ans, voire 3000 ans. Mais le constat général n'a pas changé. Et la question par laquelle le psaume 2 commence est d'une grande profondeur. Pourquoi ? À quoi ça nous avance, toute cette agitation parmi les nations. Je ne sais pas si on s'arrête parfois pour se poser cette question, mais à quoi bon tout cela ? Et la suite du verset enfonce le clou et en même temps répond à la question : pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Cette agitation, elle n'a pas de sens. On ne sait pas où on va. Alors c'est vrai que si on regarde certaines choses individuellement, on va pouvoir dans une certaine mesure trouver du sens. Tout n'est pas absurdité totale non plus. La recherche du respect des droits de l'homme, la liberté, la prospérité économique, etc., etc. Tout n'est pas mauvais dans les préoccupations des hommes. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais en même temps, on revient à cette question. Mais franchement, où allons-nous ? Pourquoi toute cette agitation ? Surtout que le bien que font les hommes est si souvent mélangé avec le mal. Quel est le but recherché dans tout cela ? Et dans un sens, ça fait des millénaires qu'on attend la réponse. Pourquoi l'agitation parmi les peuples ? Or, la Bible, et ici ce texte tout particulièrement, interprète cette agitation parmi les nations comme une révolte contre Dieu. Une révolte contre le Créateur. Face à l'autorité de Dieu, et nous dit le texte, de celui qu'il a désigné par onction. Alors, on y reviendra. Eh bien, les hommes crient « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous ». Autrement dit, débarrassons-nous de Dieu et de son autorité. Et cela rejoint ce qu'on voit dans les textes fondateurs de tout début de la Bible, Genèse 3 en particulier, lorsque nos premiers parents font le choix tragique de rejeter l'autorité morale de Dieu, son autorité pour déterminer ce qui est bon ou mauvais. Et l'homme dit « Je veux décider, moi, ce qui est bon ou mauvais ». Et c'est ce qu'on voit, à vrai dire, au cours de toute l'histoire humaine. L'homme veut inventer lui-même ses valeurs, décider ce qui est bon ou mauvais. Mais comme personne n'est d'accord, en fait, sur ce qui est bon ou mauvais, personne n'est d'accord, il suffit de lire les journaux, de regarder son fil Twitter, ou même peut-être d'avoir un repas en famille pour voir que parfois personne n'est d'accord, eh bien, il en résulte une agitation permanente. L'homme se démène dans tous les sens pour trouver du sens, justement. Et il se démène pour trouver du sens de mille et une façons sans son Créateur. Et il n'y arrivera pas. Alors c'est vrai que le psaume 2, ici, met l'accent tout particulièrement sur ce qu'on pourrait appeler les grands de ce monde. L'élite, les dirigeants. Verset 2, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Mais si le psaume 2 met cet accent sur les grands de ce monde, alors que le psaume 1, lui, met l'accent un peu sur tout le monde, eh bien c'est parce que ce psaume a une perspective de grande échelle. C'est un plan large, en quelque sorte, sur l'histoire. Et le psalmiste voit ce qui se passe au niveau mondial et voit que les nations et leurs chefs, quelles qu'elles soient à toutes les époques, participent à une forme de révolte contre Dieu. Et ça va même plus loin, puisque le texte nous dit même que les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel. Et en fait, l'histoire confirme cela régulièrement. Combien de fois avons-nous vu des idéologies qui sont en fait très opposées les unes aux autres, mais qui ont ceci en commun, qu'elles rejettent l'autorité du Dieu de la Bible? Alors une question qui se pose pour nous en lisant ce texte est celle-ci. Eh bien, sommes-nous prêts à croire que le problème fondamental du monde, le problème qui est en amont de tous les autres, en fait, c'est une révolte contre Dieu? Reconnaître cela, c'est fondamental parce que ça nous place en situation, du coup, de savoir où il va falloir chercher la solution et de comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle qui répond précisément à cette révolte universelle. Donc on peut se poser la question au niveau mondial, mais aussi au niveau individuel. Qu'en est-il de chacun d'entre nous, de moi ? Est-ce que je reçois l'autorité de Dieu sur ma vie avec reconnaissance, avec confiance ? Ou est-ce que je cherche par tous les moyens à m'en défaire ? Rejetons leurs liens. C'est intéressant de voir, d'un point de vue général, que la Bible ne fait pas de différence entre nos choix privés et l'état public du monde. Notre société fait tout le temps ce genre de distinction, mais la Bible, pas vraiment. Le monde va mal parce que chacun à leur échelle, les hommes font le mal. Mais le texte poursuit en décrivant la réaction de Dieu à cette révolte. Et c'est une réaction qui nous surprend, à vrai dire. Qu'est-ce que c'est ? C'est le rire. C'est notre deuxième point, un rire. Face au tumulte des nations, face à cette révolte contre lui-même, comment est-ce que Dieu va réagir ? verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Alors on s'attendait peut-être à pas mal de choses, mais pas forcément à celle-là. Dieu rit face à la révolte des hommes. Et si on a un doute sur le sens de ce rire, la suite du verset est parfaitement claire. Le Seigneur se moque d'eux. Face au déferlement de la révolte humaine, à cette agitation permanente des nations, l'Éternel rit et se moque. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Comme le souligne un commentateur, si on adhère à la vision aseptisée de Dieu qui a souvent cours en Occident en particulier, on sera surpris, Dieu un peu comme un grand papa Noël, on sera surpris et même choqué, sans doute, par cette description de l'attitude de Dieu. Dieu se moque, mais c'est choquant. Dieu n'est-il pas là pour juste bénir et pardonner, pour être toujours gentil ? Alors vous me direz, non, mais nous, à la RDS, on est un peu plus subtil que ça quand même. Mais il y a une réaction un peu plus fine qui pourrait être de s'étonner quand même de cette moquerie divine en faisant remarquer que dans le psaume 1, qu'on a vu la semaine dernière, et vous avez bien noté, que nous sommes mis en garde contre le fait de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, nous, on ne doit pas se moquer, mais Dieu, lui, il se permet de se moquer. Mais je crois qu'il faut comprendre que le rire de Dieu ici, la moquerie même dont il est question, n'est pas malfaisante et dégradante, comme le sont le plus souvent nos moqueries. Dans le contexte, c'est un rire, je crois, qui manifeste la parfaite liberté de Dieu face à cette révolte, son refus de se laisser entraîner par elle. Je donnerai un exemple pour illustrer cela. Après l'attentat de Barcelone récemment, les djihadistes donc de Daesh ont réalisé une vidéo de menace en espagnol pour dire en gros, on va continuer à faire ce genre de choses. Et la réaction de nombreux Espagnols à cette vidéo, ça a été la moquerie. C'était une vidéo un peu grandiloquente avec une musique improbable en arrière-plan, puis on voit un jeune barbu qui parle de califat, etc. Et beaucoup, en voyant cette vidéo, n'ont pas pu s'empêcher de rire et de faire plein de parodies après sur Internet. Et pas mal de commentateurs ont dit, en fait, ça c'est la meilleure réponse possible au terrorisme. Rire ne veut pas dire qu'on nie le mal ou le danger, mais c'est une manière de dire qu'on garde sa liberté. On garde sa distance. Vous pouvez, c'est une manière de dire aux gens qui font ça, vous pouvez gesticuler autant que vous voulez, vous pouvez faire autant de mal que vous voulez, et ça nous fait effectivement du mal, mais vous ne nous empêcherez pas de trouver ridicule en fait ce que vous faites et de rester qui nous sommes. Alors bien sûr, la comparaison a ses limites, mais je pense que dans un sens, elle peut nous aider à comprendre ce rire de Dieu ici. Un rire qui dit à l'humanité qui se révolte contre lui et à ses grands chefs, « Je suis qui je suis ». Et je reste qui je suis, et votre révolte dérisoire ne me menace en rien. Et comme dans l'exemple donné il y a un instant, le rire n'empêche pas la colère. D'ailleurs, on voit que juste après, au verset 5, il est question de la colère de Dieu. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Alors là encore, ça paraît sévère, la fureur de Dieu, on ne veut pas entendre parler de ça. Mais en fait, si on y réfléchit un peu, c'est un message nécessaire. Et même rempli d'espérance. Parce que si Dieu était menacé, effrayé par la révolte humaine, nous n'aurions plus de raison d'espérer en lui. Et le monde, en fait, n'aurait aucune raison d'espérer autre chose que l'agitation permanente et la vanité à n'en plus finir. Mais Dieu n'est pas menacé par la révolte humaine. Il reste libre. Il n'est pas lui-même compromis dans le mal que commettent les hommes. Et c'est pour ça qu'il peut nous en délivrer. C'est parce qu'il reste libre par rapport à ça, il n'est pas lui-même compromis dedans. Et je pense que c'est bon pour nous de nous rappeler cela. Toutes ces choses que nous voyons autour de nous, et jusque dans nos propres vies malheureusement, souvent, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, et qui parfois, surtout au niveau international, à grande échelle, peuvent nous paraître si redoutables, si impressionnantes, les haines entre les hommes, ou bien la grande indifférence spirituelle de notre époque, surtout en Occident, les idéologies hostiles à notre foi, qui parfois prennent tant d'ampleur, eh bien ces choses ne menacent en rien Dieu et ses projets. Dieu rit devant ces choses. Ça l'attriste aussi, ça n'empêche pas. Mais il rit, il reste libre. Mais le Dieu qui rit est aussi le Dieu qui aime et qui veut sauver. Et c'est là qu'intervient un mystérieux personnage dans ce psaume qui est introduit au verset 2, celui que l'Éternel a désigné par onction. Après le rire et la colère, Dieu répond à la révolte humaine en disant « C'est moi qui ai établi mon roi », verset 6. À la rébellion des hommes, donc, Dieu oppose un roi qu'il a choisi. Et ça nous mène à notre troisième et dernier point, un roi, donc. Si on demandait aux gens dans la rue, ou peut-être sur le parvis de la gare Montparnasse, quel est le sens du mot « Messie ? » Quelle serait la réponse la plus courante ? Alors peut-être la réponse la plus courante serait un joueur de foot du FC Barcelone. Mais en deuxième lieu, l'idée d'un sauveur, l'idée d'un homme providentiel. Et en fait, on serait assez près du sens originel de ce mot « Messie ». Mais il faut savoir que le mot « Messie » vient d'un mot hébreu, « Mashiach », qui est utilisé dans ce texte au verset 2 et qui veut dire « oint » au INT. Je sais que c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. Autrement dit, quelqu'un qui a reçu une onction. Et comme on a eu l'occasion de le voir dans un autre message il n'y a pas très longtemps, l'onction, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de verser un peu d'huile sur la tête de quelqu'un pour le désigner dans une mission particulière et dans une fonction particulière. Notamment de désigner les chefs et les rois. De même qu'un président de la République en France, quand il devient président, il y a une cérémonie d'investiture et on va lui remettre par exemple le grand collier de la Légion d'honneur. Ou aux États-Unis, il va prêter serment sur la Bible. Eh bien, en Israël, on avait recours à l'onction pour dire « Celui-ci est notre chef, notre roi ». Eh bien, au verset 2 de notre psaume, il est question de celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu lui-même. Donc l'image qui est suscitée ici, c'est Dieu lui-même qui désigne par onction, qui verse de l'huile sur la tête de ce chef. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, un roi désigné par Dieu lui-même. Et c'est confirmé au verset 6, « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte », une montagne juste au niveau de Jérusalem. Alors évidemment, quand on lit cela, Dieu qui désigne un roi, déjà on peut avoir une lecture cynique, un peu, ou disons sceptique, et penser à tous ces rois dans l'histoire qui se sont réclamés de rois divins, de droits divins, par exemple Louis XIV et compagnie, c'est voilà, Dieu m'a désigné comme roi de France, donc il va falloir obéir à tout ce que je dis. Et dans le contexte israélite, on peut penser à la dynastie de David. Alors d'après la Bible, David pouvait dire à juste titre que Dieu l'avait choisi comme roi, ce que nous dit bien la Bible. Et donc on pourrait être tenté de lire ce psaume comme un simple psaume de la cour royale de David, qui exalte le roi en disant que voilà, Dieu l'a désigné, et donc chacun a intérêt à lui obéir. Le problème avec ça, c'est que le profil du roi qui va nous être décrit ensuite au verset 7 à 9, ça cadre mal avec la réalité du roi David. Même en supposant que David avait un peu la grosse tête, il faudrait quand même beaucoup d'aplomb pour affirmer que Dieu lui a donné les nations en héritage. Et c'est d'autant plus improbable quand on lit l'appel qui suit, adressé à tous les rois de la terre de faire allégeance, de se soumettre à ce roi désigné par Dieu. Jamais David n'a eu une telle prétention. D'ailleurs, il suffit de lire le reste des psaumes. Il y a beaucoup de psaumes de David, et dans les psaumes, David ne se présente pas comme le roi du monde entier. Au contraire, c'est même étonnant, il se présente avec beaucoup d'honnêteté, souvent comme inquiet, faible, menacé par ses ennemis. Donc il y a vraiment un énorme décalage entre le portrait de ce roi ici et le portrait qu'on a de David par ailleurs. On n'a pas l'impression que David pense avoir reçu l'autorité de régner sur le monde entier. Déjà, se débrouiller avec les Philistins à sa frontière, c'était déjà pas toujours simple pour lui. Et il n'a pas la prétention de régner sur le monde entier. Et de fait, ça n'a pas du tout été le cas. David a régné sur un territoire qui fait à peu près la taille de la région Pays de la Loire. Donc on est quand même loin du monde entier. Donc le roi du psaume 2 n'est pas David. Alors qui est-il, ce roi mystérieux ? Ce psaume le situe au-dessus des rois et des juges de la terre, verset 10. Et puisque c'est eux qui sont appelés à lui rendre hommage, verset 12. Donc il est le roi des rois. L'autre élément clé dans ce texte, c'est qu'il est désigné comme le fils. Par deux fois, verset 7, « Tu es mon fils ». Verset 12, « Rendez hommage au fils ». Alors, certains fins exégètes parmi vous, je sais, me diront « Oui, mais dans quelques textes de l'Ancien Testament, les rois d'Israël parfois sont décrits comme fils de Dieu ». C'est ce que vous alliez me dire, je sais. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça ici ? Mais en fait, alors déjà, il n'y a pas beaucoup de textes où ils sont décrits comme ça, mais surtout, tout le contexte ici nous oriente vers un sens beaucoup plus fort. Parce qu'ici, on a un fils que Dieu a désigné comme chef des nations. Un fils dont l'action semble associée à celle de Dieu lui-même. Verset 11, « Servir l'Éternel », ça semble aller de pair avec « Rendre hommage au fils », verset 12. Et c'est au point qu'à la fin du verset 12, eh bien, on ne sait pas trop si la colère qui est décrite ici est celle de l'Éternel ou du fils. Mais quelque part, ça semble revenir au même. Le fils a reçu de Dieu l'autorité pour régner sur les nations. Et le texte nous montre que ce roi de Dieu, eh bien, il place l'humanité face à un choix. Soit on peut s'opposer à lui, et c'est un très mauvais choix, c'est courir à sa perte. Verset 12, « Rendez hommage au fils », littéralement « embrasser le fils », de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Mais ce roi dont l'autorité est effrayante pour ceux qui s'opposent à lui est une source de paix et de refuge pour ceux qui se tournent au contraire vers lui et qui reconnaissent son autorité. Verset 11, « Réjouissez-vous, tout en tremblant quand même. » On voit que ce n'est pas n'importe qui ce roi. Et on a la même idée juste après la conclusion du psaume, qui d'ailleurs fait écho au début du psaume 1. « Heureux, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Verset 12. Donc on a un roi qui a reçu l'autorité sur toutes les nations. On a un roi dont l'action et les projets semblent se confondre avec ceux de Dieu. Un roi qui juge, mais qui est en même temps un roi qui sauve et qui délivre. Est-ce que ça nous met la puce à l'oreille? Vous ne serez pas surpris de la réponse. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas hésité, un instant, à voir dans ce psaume 2 une annonce particulièrement claire de la venue de Jésus, le Christ, ce qui traduit en grec le Messie, celui qui a reçu une onction. Et quand on lit le Nouveau Testament à la lumière du psaume 2, il y a beaucoup de choses qui font écho. Jésus est venu proclamer le royaume de Dieu. Il est venu même apporter en sa personne le royaume de Dieu. Et au moment du baptême de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Une voix se fait entendre du ciel qui dit « Tu es mon fils !» Comme une citation directe du psaume 2, Marc 1, 11. On a, parmi tant d'autres, ce texte où Jésus invite chacun à venir à lui pour trouver le repos, le refuge. Matthieu 11, 28. Mais en même temps, Jésus met sévèrement en garde ceux qui le rejettent. Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et puis au moment de, après sa résurrection, au moment d'envoyer ses disciples en mission, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Écoutons bien les échos du psaume 2. Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations mes disciples. On a là une autorité universelle, un règne sur les nations. Peut-être pas le genre de règne auquel on aurait pu s'attendre à l'époque de David, c'est vrai, mais bel et bien un règne. Et Jésus appelle non seulement les grands de ce monde, mais tous les hommes, toutes les femmes, à se tourner vers lui et à trouver refuge en lui. Parce que Dieu a confié à Jésus les clés de l'histoire. Alors aujourd'hui, il rassemble son peuple. Tous ceux qui trouvent refuge en lui partout dans le monde. Et l'appel vous est lancé à vous aussi, qui peut-être n'avez pas encore fait ce choix, comme Clifford l'a dit tout à l'heure. Jésus rassemble son peuple, il vous appelle à venir à lui, à reconnaître son autorité, à vous tourner vers lui. Bientôt, il mettra un terme à la révolte humaine et il exercera le jugement sur le monde. Alors le bientôt de Dieu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire à notre échelle, mais ça pourrait arriver à n'importe quel moment. Et donc, il est capital de s'assurer qu'on se place du bon côté de l'histoire. Ce que ce psaume ne dit pas, mais d'autres textes le disent, c'est que ce roi qui a reçu toute autorité est aussi celui qui a accepté de se soumettre dans la plus extrême humilité à l'opposition et à la violence des hommes. Justement, ces nations qui se déchaînent contre le Messie, eh bien, ça s'est fait très littéralement à la croix. Les Romains, les Juifs, peu importe, ils se sont ligués ensemble contre Jésus. Mais Jésus a accepté cela pour pouvoir nous sauver de notre révolte. Le roi s'est fait serviteur par amour et compassion pour nous. Et sa résurrection a révélé que rien ni personne, pas même la mort, ne peut le dompter. Je terminerai par une petite histoire tirée de la littérature. dans les Chroniques de Narnia, qui est une série pour enfants, il en a été fait quelques films, de l'auteur britannique, chrétien d'ailleurs, C.S. Lewis. Je crois que c'est dans Le lion et l'armoire magique. La fillette Suzanne demande à propos du lion Aslan, qui est, on va dire, la figure christique de ces histoires. Le lion Aslan, elle demande donc, en entendant parlant de lui, elle demande « Un lion ?» Je traduis librement. « Mais est-ce qu'il fait peur ?» Et on lui répond « Bien sûr qu'il fait peur, mais il est bon. » Il fait peur, il est redoutable, mais il est bon. C'est pas pour rien que C.S. Lewis a écrit les choses ainsi. C'est le portrait qui nous est de Dieu, donné de Dieu dans ce psaume. Un psaume qui nous rappelle donc le sens de l'histoire, qui nous rappelle qui est Dieu. Les nations s'agitent aujourd'hui, on le voit tous les jours, mais elles sont appelées, nous sommes appelés à reconnaître l'autorité du Fils de Dieu, le roi des rois, avant qu'il ne soit trop tard. Et si les nations sont appelées à reconnaître cette autorité, à combien plus forte raison nous, chacun individuellement dans nos vies? Et dans cette Église, comme dans tant d'autres, notre vocation est de vivre une vie sortie, qui est libérée de cette agitation du monde, une vie de sagesse, verset 10, par laquelle nous nous laissons instruire par celui qui nous a créés, que nous avons rejeté tous à notre manière, mais qui est intervenu dans notre monde, qui nous appelle à le connaître pour nous ramener à lui. Amen.